Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirika.
C'est parti pour un nouveau journal dont voici les titres. Un bouclage aujourd'hui lundi sous les principales artères de la ville de Goma. Du coup, des centaines de véhicules sans documents exigés ont été arrêtés et d'autres interdits de circuler sur instruction du gouverneur. Commémoration aujourd'hui de la Journée mondiale de la santé mentale. Objectif affiché, susciter l'intérêt à l'égard des maladies psychologiques dont le nombre des patients s'est accru sur la planète selon des spécialistes du domaine. Notre invité, c'est le directeur de la Régie des eaux au Maniema, Pascal Bokanga, affirme qu'après 30 ans de rupture, son entreprise a desservi les habitants du camp Mopaya en eau potable sous financement du gouvernement provincial. Madame, Monsieur, bonsoir. Coup d'envoi ce lundi à Goma du bouclage des véhicules sur instruction du gouverneur du Nord Kivu. Des barrages, des contrôles ont été installés aujourd'hui sous les principales artères de la ville. Du coup, des centaines de véhicules sans documents exigés ont été arrêtés et d'autres interdits de circuler. Le compte-rendu de la journée avec vous, Bernard Nenyangi.
C'était une lutte pour obtenir une place à bord des bus de transport en commun, ce lundi sur certains axes de Goma. Dès les premières heures de la matinée, on a déjà constaté très peu de taxis en circulation, du fait que nombreux conducteurs n'ayant pas de vignette et permis de conduire qu'ils ont exigé, ont carrément décidé de garder leurs engins chez eux. Conséquence, le prix d'une course qui était à 500 francs congolais à bord des minibus par exemple, est passé à 1000 francs congolais ou 800 francs congolais. Le secrétaire provincial de la Sekonor Kivu reconnaît tout de même que l'autorité provinciale leur avait averti deux mois à l'avance, Luboula Ramazani.
Il y a plus ou moins 60 jours que les autorités provinciales que Ruben nous avait informé de ce bouclage. De notre part, nous avons vulgarisé ce message auprès de nos membres, dont la plupart ont d'ailleurs payé. Si vous passez à la mairie, il y a beaucoup des opérateurs économiques qui attendaient jusqu'à ce que le bouclage soit déclenché pour qu'ils aillent payer.
Cette opération visant le recouvrement forcé des taxes et impôts relatifs à la sécurité routière pour l'exercice fiscal 2022, annoncé le 6 octobre dernier par le gouverneur militaire, concerne toute la province du Nord Kivu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
À Beni, pendant ces temps, le superviseur du maintien et du rétablissement de l'ordre public de la police nationale au Grand Nord a annoncé ce lundi la nouvelle approche des opérations qui consiste à travailler en synergie avec l'armée afin de sécuriser les agglomérations conquises par les FARDC. Cette opération va de Luna à Kanyabayonga. Explication à Beni de Marc Marofimo.
Cette annonce a été faite ce lundi lors de la parade spéciale de la police en ville de Beni, après celle faite à Oicha à cette même fin. Selon le superviseur des opérations de maintien et rétablissement de l'ordre public au Grand Nord, la police travaillera désormais aux côtés de l'armée pour sécuriser la population dans toutes les zones et agglomérations conquises par les FARDC, partout où elle mène des opérations militaires contre les groupes armés dans tous les territoires de la province. Le colonel Jean-Pierre Wumbi.
J'ai parlé de la police de proximité. Comment est-ce que les policiers peuvent se comporter vis-à-vis de la police? Par rapport à ces menaces de l'ennemi, nous avons déjà commencé à travailler depuis 2018 dans cette approche-là. Et à la police, on nous a donné le dernier axe qui est de sécuriser les agglomérations qui seront laissées par l'armée. Après avoir acquis ces agglomérations, l'armée va aller en profondeur laissant ces agglomérations entre les mains de la police.
Reconnaissant les menaces contre les éléments de la police par des diverses attaques contre les commissariats de police, surtout en territoire de Lubero, le colonel Jean-Pierre Wumbi a appelé ces éléments à la vigilance en interpellant leur sens des responsabilités au travail. Il a également appelé la police à travailler en franche collaboration avec la population afin de tenir hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis au lendemain de l'évasion de près de 200 détenus de la prison centrale de Matadi, le président du cadre des concertations de la société civile du Congo central redoute la montée de l'insécurité. S'est confiant à la presse hier, Jules Benga a fait remarquer que cette évasion des détenus a plongé la population dans la peur. Il a en même temps appelé les autorités à traquer au plus vite les fugitifs. Pour en parler, rejoignons à Matadi Nana Plurijmambou.
Dans sa déclaration, les cadres des concertations de la société civile du Congo central affirment que depuis l'évasion des 202 détenus survenus le 7 octobre dernier, la population des Matadi en particulier, celle du Congo central en général, vit la paire au ventre, car se trouvant en insécurité avec la présence à ses côtés des bandits des grands chemins. Cette structure citoyenne appelle les autorités compétentes à prendre les dispositions pour traquer ces évadés et pour répondre aux évasions à répétition dans les prisons du Congo central. Gilles Benga en est le président.
Des autorités provinciales à tout mettre en œuvre pour récupérer ces hommes sans foi ni loi qui courent les rues. La société civile lance un appel aux autorités nationales pour une meilleure sécurisation de la prison centrale de Matadi où les évasions deviennent une monnaie courante.
Pour sa part, le gouvernement provincial appelle la population au calme et rassure quant aux dispositions sécuritaires. Anne-Marie Tsassa en est le porte-parole.
25 évadés ont déjà été appréhendés et la traque des autres fugitifs continue.
Rappelons que cette énième évasion massive des prisonniers occasionnée par une dispute entre des policiers qui montaient la garde sur les miradors a fait 2 morts et plusieurs blessés. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Maniema où la prison centrale de Kasongo a enregistré ce week-end un nouveau décès parmi les détenus suite à la malnutrition sévère. La nouvelle société civile congolaise met les autorités devant leurs responsabilités. À Kindu, Florence Kizalunga.
Selon le directeur de la prison de Kasongo, Zakwani Issa, le détenu qui est mort s'est un condamné à 7 ans poursuivi pour viol d'enfant. La diarrhée aiguë et la malnutrition l'ont emporté. Les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise dénoncent le manque de subventions à cette prison plus d'une année. Maître Richard Saloum-Loutipa.
La prison centrale de Kasongo, comme une prison reconnue en République démocratique du Congo, doit bénéficier des subventions comme toutes les autres prisons de la République. Mais elle s'est fait malheureusement que depuis plus d'une année, la prison centrale de Kasongo ne bénéficie plus de ces subventions-là. On se pose la question, est-ce qu'elle est mise aux oubliettes? Est-ce que c'est par mauvaise volonté des autorités nationales ou soit c'est par mauvaise volonté des autorités provinciales? Parce que je ne crois pas qu'un gouvernement responsable comme celui de la République démocratique du Congo ne puisse pas envoyer des subventions à la prison centrale de Kasongo reconnue plus d'une année. Nous voudrions interpeller au gouvernement central de prendre ses responsabilités en main pour la prison centrale de Kasongo.
Il est à rappeler que après la mort de ces derniers, il y a 3 autres détenus qui en souffrent et risquent aussi de mourir, conclut notre source. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Changeons de chapitre maintenant. Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale. C'est le thème de cette année de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée ce lundi 10 octobre. Objectif visé, susciter l'intérêt à l'égard des maladies psychologiques dites mentales dont le nombre des patients s'est accru dans le monde selon des spécialistes. Le docteur Okitundu Lua, neurochirurgien au centre neuropsychologique de Kinshasa, affirme à Radio Kapi que cette maladie est liée notamment au contexte socio-économique et culturel d'un individu. Il a été joint par Kelly Koyaka.
Oui, l'approche qui est préconisée pour comprendre pourquoi il y a des troubles mentaux, c'est l'approche biopsychosociale. Il y a des facteurs biologiques qui peuvent être des facteurs d'hérédité. Il y a des maladies mentales, tout comme des maladies neurologiques ou des troubles psychologiques d'origine héréditaire. Et puis, il y a des troubles qui sont dus aux risques environnementaux et multiples. Donc, le risque en termes de tout ce qui provoque la détresse psychologique liée aux événements de la vie. Et puis, il y a les intoxications, il y a les infections, il y a les facteurs physiques. Alors, l'aide qui peut donner l'aide. Nous avons les psychologues et cliniciens qui peuvent donner l'aide aux toutes personnes formées en accompagnement psychosocial. Ils peuvent s'occuper de cas de détresse psychologique avec les manifestations que j'ai signalées.
Revenons un instant au Nord Kivu où 5 chefs d'établissement de l'enseignement secondaire ont été suspendus. Le chef de division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique les accuse d'insubordination à la décision du ministère des tutelles interdisant la vente des uniformes, des logos, des cahiers de communication et des journaux de classe. À Goma, la correspondance de Gabriel Ouamenia.
Parmi les chefs d'établissement suspendus, nous pouvons citer la sœur préfète du complexe scolaire Mama Moulezi, la sœur préfète du lycée Amani, école de la congrégation catholique, et la liste n'est pas exhaustive. Selon les sources du bureau de l'enseignement primaire secondaire, ces chefs d'établissement ont obstinément foulé aux pieds les instructions du ministère de l'EPST interdisant à toutes les écoles, tant publiques que privées, la vente des uniformes scolaires, des journaux de classe, des cahiers de communication, ainsi que des logos de leurs écoles. Selon toujours les sources de l'éducation en province, ces décisions du ministère ne devraient pas souffrir d'aucune exception et les sanctions vont s'étendre dans d'autres écoles de la province pour les chefs d'établissement qui se compromettraient dans ce genre d'exercice. Rappelons que la vente des uniformes, des logos d'école, des journaux de classe, mais aussi la compte des frais scolaires sont là les principales conditions exigées par quelques chefs d'établissement avant l'admission ou l'inscription des élèves dans les écoles à Goma. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite au sud Kivu de la construction de 6 km de route entre la ville de Bukavu et l'aéroport de Kavumu. Le chantier de Kazingo a reçu ce week-end la visite du chargé de mission du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pacifique Kahacha exhorte l'entreprise Sokok qui exécute les travaux de les achever avant la fin de l'année. Reportage à Bukavu de Jean Kassami.
Ces travaux de construction de routes sur l'axe Kazingo-Amsar ont repris 3 mois après avoir été suspendus par manque de financement. Les chargés de mission du chef de l'État renseignent que la reprise a été rendue possible grâce au plaidoyer de la première dame. Pacifique Kasha souhaite que les travaux arrivent à leur terme avant la fin de l'année.
Nous attendons donc que la population de Bukavu puisse fêter la bonne année ici avec ces routes et ces travaux terminés. Donc on espère que d'ici la fin de l'année, en tout cas pour ce qui est de la RN2, nous aurons terminé et que éventuellement l'un ou l'autre tronçon du centre-ville de Bukavu, notamment le quartier Mumba, aura été entamé. Nous allons réaliser ces travaux jusqu'au bout.
Deux services de l'État, l'Office des routes et l'Office des voiries et drainage, veillent au quotidien sur la qualité des travaux exécutés par la Société congolaise de construction, Sokok. Notons que les travaux sont réalisés dans le cadre de la poursuite du programme des 100 jours du chef de l'État. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la ville de Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, est replongée de nouveau dans le noir. Le directeur administratif et financier de l'énergie du Kasaï, l'entreprise qui commercialise le courant électrique, affirme à Radio Okapi que les pièces tombées en panne sont en train d'être réparées au polygone minier de la Miba. Eric Louabeya affirme que des techniciens de la Miba ont appuyé leurs collègues de NERCA et que les travaux vont se terminer d'ici 3 jours. Il est au micro d'Esther Ndalafina.
Il y a pratiquement une semaine, vous avez vu quand même, il y a eu un petit changement. On avait mis une machine. Alors on s'était dit qu'on force pour mettre la deuxième machine. Et hier, qu'on a déposé les pièces qu'on a récupérées au polygone minier. Et c'était pour remplacer pour la deuxième machine. Alors les techniciens ont senti un bruit anormal dans la machine. Ils ont voulu arrêter. C'est pour cela que vous voyez qu'on est en train d'aller au polygone pour déposer les groupes électrogènes de façon qu'on termine ces pièces dans 3 heures ou 4 heures. Pratiquement dans 6 heures, dès qu'on termine, il y a les techniciens qui sont là, qu'on a demandé d'autres techniciens pour venir renforcer pour la deuxième machine. Nous voulons mettre les deux machines au même moment pour éviter qu'une seule machine y ait des équilibres. À ce moment-là, dans 48 heures, on fait la fermeture, on met les deux machines au même moment.
On a mis une équipe spéciale pour que les deux machines travaillent simultanément. On va faire de notre mieux là, dans 48 heures ou dans 72 heures, pour vite terminer le problème.
Actualité internationale.
C'est une nouvelle étape de la transition au Tchad. Mohamed Idriss Déby a été officiellement investi aujourd'hui comme président de la transition. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif qui a été boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. Il n'y avait là qu'un seul chef d'État, Mouamadou Bouhari, président du Nigeria. L'Union africaine n'a pas été représentée à cette manifestation, le président de la commission Moussa Faki ayant décliné l'invitation. informations qui lui avaient été envoyées. Au Mozambique, un calme précaire règne dans la cité de Palma, au nord du pays, quelques mois après l'attaque des djihadistes. Depuis l'arrivée des soldats rwandais qui sont déployés dans la région, l'optimisme est de retour. Même si les Shebab continuent de mener des attaques mineures, certains déplacés ont pu regagner chez eux et l'armée rwandaise affiche sa confiance. Elisabeth Borne, la première ministre française, poursuit sa visite officielle en Algérie avec une quinzaine de ministres à ses côtés. Un accord bilatéral de coopération économique a été signé à l'occasion. Pendant ces temps, la commissaire européenne à l'énergie se rend également ce soir à Alger. Kadri Simpson participera demain au forum d'affaires entre l'Union européenne et l'Algérie sur l'énergie. Ces derniers mois, le gaz algérien a été très courtisé, mais une augmentation des flux à court terme paraît peu probable.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur provincial de la régie des eaux Maniema, Pascal Bokanga, affirme qu'après 30 ans de rupture, son entreprise a desservi les habitants du camp Mopaya en eau potable sous financement du gouvernement provincial. Il est interviewé à Kindu par Florence Kizalunga.
Monsieur Pascal Bokanga, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Après un long moment de manque d'eau, la régie des eaux vient de donner de l'eau potable à la population du camp Mopaya et ses environs. Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette population puisse avoir cette eau?
Oui, effectivement, ce matin, nous venons de remettre deux bonnes fontaines à la population du camp Mopaya. Une population a manque d'eau depuis 30 ans. Nous avons posé une extension de 250 mètres et construit deux bonnes fontaines avec 8 robinets, en termes simples. En fait, dans le camp, c'est une population hétérogène qui habite. Le camp a été spolié. Il y a la police et les civils qui y habitent.
J'ai demandé quel miracle que vous avez fait pour servir cette population en eau potable.
Non, il n'y a pas de miracle. C'est une action qui a été planifiée. C'est sur le financement de ce gouvernement provincial que nous avons pu construire les deux bonnes fontaines et poser cette extension de 250 mètres, madame.
C'est bien de construire les bornes fontaines. Maintenant, comment est-ce que ces bornes fontaines vont fonctionner étant donné que la ville de Kindu a un sérieux problème de courant électrique?
Non, c'est une population qui a de la chance. Ça veut dire quoi? La population vit à proximité de notre conduite mère. Là, l'eau coule à flot. Il y a beaucoup d'eau dans ce milieu-là. Et quand bien même il n'y a pas l'énergie électrique, la centrale Rutshuru-Kuru pose encore des problèmes, mais avec le groupe électrogène, nous sommes en train d'arroser sérieusement cette population-là.
Mais la régie des eaux a toujours crié au manque de moyens pour alimenter son groupe électrogène.
Oui, mais madame, c'est pas crié, c'est une vérité, une réalité en face. Nous avons un groupe électrogène de 345 kVA. Et quand nous y mettons 200 litres, c'est pour fonctionner pendant 8 heures seulement. Et quand nous fonctionnons pendant 8 heures, certainement que la partie haute peine à avoir de l'eau potable. C'est ça le mode de fonctionnement à l'heure qu'il est. En attendant que la centrale Rutshuru-Kuru fonctionne normalement, qu'on ait du courant électrique, nous sommes en train de peiner. Voilà pourquoi, madame, dans certains coins, nous ne sommes pas capables d'arroser correctement, donner de l'eau potable à tous les abonnés-là, parce que nous ne fonctionnons pas normalement.
Maintenant, que faire pour avoir de l'argent? Vous êtes une société commerciale.
Oui, madame, je ne cessais de dire que l'eau que nous vendons, pour insister, a une valeur marchande. Nous sommes en train de vivre une situation paradoxale. Quand il n'y a pas d'eau dans la ville, non, les gens parlent, ils injurient même. Et quand nous donnons de l'eau potable à la population, très peu payent nos factures de consommation. Nous avons les grands abonnés qui peinent à payer, qui paient difficilement, en commençant par le tout petit abonné domestique ordinaire, jusqu'aux hôteliers, et même le gouvernement provincial ne me permet pas de pouvoir avoir correctement, enfin payer correctement les factures de consommation. Voilà pourquoi nous avons décidé, madame, le lundi 10 octobre prochain, nous amorçons non seulement que nous mettons une nouvelle facturation en recouvrement, et nous serons obligés de procéder par un recouvrement forcé, de sorte que nous puissions avoir un peu plus de moyens, acheter le carburant et arroser correctement cette population qui manque de l'eau potable.
Et dans la ville de Kindu, dans d'autres coins, il y a ceux-là qui n'ont pas encore accès à l'eau potable de la régie des eaux. Qu'est-ce que vous pensez faire pour eux, comme vous venez de faire pour la population du camp Mopaya?
Madame, je disais que c'est pas l'eau qui manque. Nous ne sommes pas incapables de produire l'eau potable, mais c'est plutôt l'argent qui nous manque. Si aujourd'hui il y a un financement du gouvernement provincial et un financement d'une grande organisation internationale, non, ceux-là vont devoir avoir de l'eau. C'est l'argent qui nous manque pour pouvoir poser des extensions ou étendre nos extensions pour que nous puissions correctement arroser tous les quartiers à manque d'eau, madame.
Et même la direction générale de la régie des eaux ne peut pas nous aider?
Mais madame, nous vivons parce qu'il y a une direction générale. Tout ce que nous avons ici, les besoins en fonctionnement, les salaires du personnel, le carburant, ça c'est le gouvernement général de la régie des eaux qui est en train de fournir. Ici, nous insistons pour les intervenants locaux. Ça veut dire que l'eau n'est pas l'apanage de la régie des eaux. Il y a plusieurs acteurs qui doivent mettre la main dans la pâte pour que nous puissions avoir de l'eau potable dans la ville. En dehors de la direction générale, nous sommes en train de lancer et tendre la main à tous les opérateurs, à tous les acteurs pour que tout le monde puisse intervenir et que la ville de Kindu soit suffisamment arrosée. Voilà, madame.
Merci à vous, messieurs. Pascal Bukanga.
Merci, madame Florence.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur provincial de la régie des eaux, Maniema, Pascal Bukanga, a affirmé qu'après 30 ans de rupture, son entreprise a desservi les habitants du Kamopaya en eau potable sous financement du gouvernement provincial. Il a été interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga et Alain Erung qui m'ont accompagné.